Love Me Tender en direct et en public de la CAF Poésie. Les lecteurs, les lectrices arrivent peu à peu pour continuer ce marathon incroyable. On vient de passer le premier tiers de ces 24 heures. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie. Si vous avez envie aussi de nous proposer des lectures comme ça impromptues, vous qui êtes dans la salle, n'hésitez pas à venir me voir pour qu'on organise ça. On va enchaîner avec Jean-Pierre Bourredon qui va nous plonger dans l'univers de Brautigan, de Philippe Léotard et de Charles Bukowski. Jean-Pierre Bourredon.
Alors, tout d'abord, merci d'être là. Je devais venir avec un musicien qui est tombé malade et qui, en plus, avait piscine. Et donc, je vais essayer d'improviser un petit peu avec l'équipe au son. Faut que je te cause. Faut que je te cause. Tu fais exprès que de regarder de l'autre côté. Faut que je te baise, que je transpose. T'as un malaise. Faut que je t'aime. Je suis cossard, j'ai la flemme, je suis en retard. Pour que tu m'aimes, faut que j'apprenne. Faut que je te cause d'amour. Un week-end à Cabourg. Suite grand hôtel, style Deauville. Tu vois ? Tu te fais mater. À être maté que par des cons. Alors là, 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 non, 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 non. Faut que je t'aime. Je suis cossard, j'ai la flemme, je suis en retard. Pour que tu m'aimes, faut que j'apprenne. Faut que je te cause d'amour. Un week-end à Cabourg. Youngman tranquille, American automobile. Tu vois, j'ai plus besoin d'amour que le jour où je t'ai découvert de travers. Faut que je t'aime. Je suis cossard, j'ai la flemme. Je suis en retard. Pour que tu m'aimes, faut que j'apprenne. Faut que je te cause d'amour. Un week-end à Cabourg. Suite grand hôtel, genre Deauville, tu vois. Faut que je te cause, honteux et fier. Je résistais à la colère. Faut que je t'aime, je suis cossard. J'ai la flemme, je suis en retard. Pour que tu m'aimes, faut que j'apprenne. Et la vie suit son cours. Je vous aime toujours. Refaites-moi l'amour. J'ai plus besoin d'amour qu'un beau jour. J'ai plus besoin d'amour qu'un beau jour. Toute l'histoire de l'Allemagne et du Japon. Il y a quelques années, pendant la Seconde Guerre, j'habitais dans un motel à côté d'une usine d'empaquetage Swift. Ce qui est une façon aimable de dire un abattoir. On y tuait des porcs, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à ce que le printemps fasse place à l'été, l'été à l'automne. Et quand on les égorgeait, on entendait une longue plainte aiguë, semblable à un air d'opéra chanté dans un broyeur d'ordures. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé que le fait de tuer tous ces porcs n'était pas étranger au fait de gagner la guerre. Sans doute parce que tout le reste aussi y a concouru. Pendant les deux premières semaines que nous avons passées dans ce motel, ça m'a vraiment perturbé. Tous ces cris étaient difficiles à supporter, puis je me suis habitué et c'est devenu un bruit parmi d'autres. Le chant d'un oiseau dans l'arbre, ou la sirène de midi, ou bien le bruit de la radio ou des camions sur la route, ou encore des voix humaines, ou l'appel pour manger, etc., etc. tu iras jouer après dîner. Tu iras jouer après dîner. Tu iras jouer après dîner. Quand les porcs ne criaient pas, on entendait le silence comme si une machine s'était cassée. J'ai essayé de te décrire à quelqu'un. J'ai essayé de te décrire à quelqu'un il y a quelques jours. Tu ressembles à aucune autre fille. Je ne pouvais pas dire, eh bien, elle ressemble à Jane Fonda, sauf qu'elle a les cheveux roux et qu'elle n'a pas la même bouche et que, bien sûr, ce n'est pas une vedette de cinéma. Je ne pouvais pas dire cela parce que tu ne ressembles pas du tout à Jane Fonda. J'ai fini par te décrire en te comparant à un film que j'ai vu quand j'étais enfant à Tacoma, dans le Washington. Je crois que c'était en 1941 ou 1942, quelque chose comme ça. Je devais avoir 7 ou 8 ans, peut-être plus. C'était un film sur l'électrification à la campagne. Le type même du film moral des années 30 au temps du New Deal. Parfait pour les enfants. Le film montrait la vie de fermiers à la campagne sans électricité. Il leur fallait des lanternes pour s'éclairer la nuit, pour coudre et lire. Et ils n'avaient aucun de ces appareils ménagers que sont les grille-pains ou les machines à laver. Et ils ne pouvaient pas écouter la radio. Puis ils construisirent un barrage avec de grandes génératrices d'électricité. Ils plantèrent des poteaux dans toute la campagne et tendirent des fils à travers champs et prés. Il y avait quelque chose d'incroyablement héroïque qui émanait du simple fait de planter des poteaux pour soutenir des fils. Ils avaient l'air anciens et modernes en même temps. Puis le film montra l'électricité comme un jeune dieu grec venu vers le fermier pour l'arracher aux ténèbres de sa vie. Soudain, le fermier avec ferveur tournait un bouton et il avait de la lumière électrique pour traire ses vaches à l'aube dans les petits matins sombres de l'hiver. Les familles des fermiers purent alors écouter la radio et avoir des grille-pains et des tas de lumières vives près desquelles on pouvait coudre des robes et lire le journal. C'était vraiment un film extraordinaire qui m'emplissait d'enthousiasme. Comme quand j'écoutais la bannière étoilée et que je voyais des photos du président Roosevelt ou que je l'entendais à la radio. Le président des États-Unis! Je voulais que l'électricité aille partout dans le monde. Je voulais que tous les fermiers du monde puissent écouter le président Roosevelt à la radio. C'est à cela que tu ressembles pour moi. Les filles de l'Hôtel Vert. Les filles de l'Hôtel Vert sont plus séduisantes que les stars de cinéma. Et elles flânent sur les pelouses, prenant leur bain de soleil. Et l'une est assise en petite tenue, mais sur de hauts talons. Ses jambes croisées ne cachent rien de ses cuisses admirables. Elle porte un fichu sur la tête et fume une cigarette king size. La circulation est ralentie, presque arrêtée. Les filles de l'Hôtel Vert se moquent de la circulation. Elles sont toutes à moitié endormies. Ce sont des putes sans âme, mais elles sont merveilleuses car elles ne mentent jamais. Je monte dans ma voiture et, en attendant que la circulation devienne plus fluide, je me range près de l'Hôtel Vert et de ma favorite. Elle se dort au soleil sur le gazon. Hello, dis-je. Hello. Et elle tourne vers moi, ses yeux qui brillent comme de faux diasmes, et son visage vide de toute expression. Je lui lance mon dernier recueil de poèmes par la portière. Il tombe à côté d'elle. J'embraye et je démarre. Ça rira un bon coup cette nuit. Ça rira un bon coup cette nuit. La naissance de mon nez, l'enfance de mes yeux, l'aube de mes oreilles sont pleines de bouteilles où l'on cachait le feu, d'odeurs de droguerie où l'ivresse entrevue dansait dans les flacons. Les couleurs des marchands, les ardoises, les craies, les papiers d'Arménie ou le tournesol bleu, les becs, les gaz, le liège des bouchons, le désir et la peur d'infimes explosions. Tout ce qui sans explication tachait mon cartable, laissant des traces sans le son, ce qui était formule et n'avait pas de nom. Roule et coule toujours au fond de ma mémoire, comme une drogue sans histoire, un fleuve sans alluvion, une éternité ivre, une page sans livre, un océan sans horizon. Silence le dimanche. Silence de dimanche comme une respiration suspendue. Des images se montrent. Elles apparaissent comme à contre-jour pour s'effacer aussitôt dans les réfractions de la mémoire, après avoir rappelé un instant leur présence latente. Certaines, plus fortes, s'obstinent, comme montrant du doigt pour désigner un refuge, nous mettre à l'abri dans le souvenir. J'étais sur de la moleskine ivre. Je ne savais pas quelle sueur allait baigner le cul de ma vie. Le paradis se raréfiait. J'entrais dans la moiteur. J'avais la passion du mensonge, la méchanceté du mépris muet. Mes amitiés étaient mes fuites, ma fierté, l'enfer d'un orgueil mesurable seulement aux vanités que tolérait ma paresse. L'inflammation, mon processus naturel de rétablissement. C'était la nuit, à tout point de vue. La nuit sinistre des villes d'aujourd'hui. Je transpirais seul. Je regardais déjà par terre, terne comme on s'éternise. Il y avait eu vacances sans devoir, il y avait moi, inapte. Inepte, vieux d'ignorance. Je me persuadais de ma distraction comme d'un radotage. Sans fin ni gourmandise, j'avais l'espérance ignoble qu'on repasse les plats pour revenir avec une volupté mortelle au plus ancien des voyages, sans mémoire, sans programme. Par ailleurs, j'étais cyniquement docile en mutation. Je me laissais croupir jusqu'aux métamorphoses. Cela me rendait merveilleusement perméable au message de l'espèce et bien caché dans son discours. J'entrais impassible dans un monde sans obligation d'amour. Petite parenthèse, je n'aurais pas le cœur assez lâche pour aimer sans être aimé. Napoléon Bonaparte. Ouais, il a même dit des choses comme ça, Napoléon. Ça n'a rien à voir avec Bukowski. Mais j'avais envie de le mettre là. C'est vrai, après avoir massacré des millions d'hommes, sortir des phrases comme ça. Magnifique, je me dis, tiens, on va le mettre là, quoi. C'est le 14, c'est la Saint-Valentin. Ah, les Superman, les Monsieur Muscles sont assis intouchables sur la plage, grillés par le soleil et sans un gramme de graisse. Ils sont assis tandis que les vagues se déploient à l'horizon. Ils sont assis tandis que la bourse fait et défait les hommes et les familles. Ils sont assis alors qu'il suffirait de presser un bouton pour transformer ces bronzés en petits tas d'allumettes noircies. Ils sont assis, tandis que des suicidés dans des chambres vertes se font la belle Ils sont assis, tandis que d'anciennes Miss Amérique pleurent sur le reflet ridé. Ils sont assis avec moins de sang dans les veines qu'un singe. Et ma femme s'arrête et les regardant s'exclame. Ma femme et moi, nous nous promenons tandis que les vagues se déploient à l'horizon. Il y a chez eux quelque chose qui cloche, dit-elle. Dis-moi quoi ? Avec eux, l'amour est à sens unique. Les mouettes tournoient dans le ciel et les vagues s'abîment sur le rivage. Et nous les abandonnons loin derrière nous. Et tout se dissout eux-mêmes, le temps qui passe, ce moment précis. Les mouettes, la mer, le sable. Alors normalement, j'ai un espèce de bâton de pluie. Et j'essaie d'imiter Serge P, mais là, je ne l'ai pas. Et donc, vous n'aurez pas un bout de Serge. Ah là, ça y est, un petit bout de ça, c'est bien. Bon, alors je crois que je suis pas loin de la fin. Ben non. Il prend encore un petit moment. Ah non. Septième saut. Les sept putains de ma peau me veillent, me vident. On ne me verra pas descendre, furieux. Les sept marches qui mènent au bourreau, à la hache, au ciseau amusé par le nœud et le fil qui conduit, où l'on sombre, où l'on tombe dans l'ombre. Des sept nuits de l'amour, des sept nuits de l'oubli. Je danse. J'ai rêvé de baiser les vaisseaux des naufrages. Désirer les sept ciels et les sept galaxies, les sept mers océanes, les sept mers du monde, les sept vierges du temple au pied des sept piliers, de l'ombrageuse mort qu'on appelle sagesse, que j'appelle sommeil, que j'appelle paresse. Cette fois j'ai parlé nu à la froide maîtresse, j'ai violé les sept ciels et les sept galaxies. J'ai envie de baiser les putains de mon âme et que soient déchaînés les toxins de mon cœur. Le son sourd de l'amour au milieu des serpents. J'ai envie d'écouter cette fois les sept prières. Que la terre accomplisse sa septième absence et qu'il se fasse dans le ciel un long silence jusqu'à ce que l'agneau ouvre le septième saut, jusqu'à ce que l'agneau ouvre le septième saut. Ah, ça c'est un des plus beaux textes de notre ami Bukowski, que tout le monde pensait qu'il n'était qu'un gros dégueulasse, qui se bourrait la gueule. Ça veut dire que ceux qui ont toujours dit ça ne l'ont jamais lu. Exemple. Ma fille est la plus belle. Nous sommes en train de prendre un encas dans ma voiture à Santa Monica. Je lui dis, hey kid, quelle belle vie j'ai eue, une sacrée belle vie. Elle me regarde. Je laisse tomber ma tête sur le volant et je frissonne, puis j'ouvre d'un coup d'épaule à la portière, comme si j'allais vomir. Je me redresse, elle rit, en mordant dans son sandwich. Je pique dans le cornet quelques frites que je porte à ma bouche, que je mâche. Il est 17h30 et les voitures passent et nous dépassent. Je lui jette un regard en coin. Nous avons tout ce que nous voulions. Et ses yeux brillent à l'idée du temps qui lui reste. Et elle grimace d'aise. petit dernier pour la route. Je rêve que je dors. Je voudrais te parler encore, mais voilà que tu t'endors. Tu sais, tu parles en dormant, pas avec moi. Parfois même tu ris ou tu chantes. Dans les phrases, l'illumination terrible d'un son, d'une merveille. Et je te dis encore que je t'aime, pour laisser mon souffle traîner dans tes cheveux. Tu souris en rêve, tu dors. Peut-être qu'il ne faut pas trop souvent dire je t'aime. C'est comme vouloir s'amuser du cœur et des baisers, douter de soi-même. Pourtant, je continue, je te le dis encore, je t'aime. Voilà que tu t'endors. Et alors, je rêve que je dors. Alors, je rêve que je dors.
Micro ouvert.
Des poèmes de... Ah. Et maintenant, je vais vous lire trois poèmes à la suite de Paul Éluard. Je t'aime. Je t'aime pour tous les hommes que je n'ai pas connus. Je t'aime pour tous les temps où je n'ai pas vécu. Pour l'odeur du grand large et l'odeur du pain chaud. Pour la neige qui fond, pour les premières fleurs. Pour les animaux purs que l'homme n'effraie pas. Je t'aime pour aimer. Je t'aime pour tous les hommes que je n'aime pas. Qui me reflètent sinon toi-même. Je me vois si peu. Sans toi, je ne vois rien qu'une étendue déserte. Entre autrefois et aujourd'hui, il y a eu toutes ces morts que j'ai franchies sur de la paille. Je n'ai pas pu percer les murs de mon miroir. Il m'a fallu apprendre mot par mot la vie, comme on oublie. Je t'aime pour ta sagesse, qui n'est pas la mienne, pour la santé. Je t'aime contre tout ce qui n'est qu'illusion, pour ce cœur immortel que je ne détiens pas. Tu crois être le doute et tu n'es que raison. Tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûre de moi. Si je te parle, c'est pour mieux t'entendre. Si je t'entends, je suis sûre de comprendre. Si tu souris, c'est pour mieux m'envahir. Si tu souris, je vois le monde entier. Si je t'étreins, c'est pour mieux me continuer. Si nous vivons, tout sera à plaisir. Si je te quitte, nous nous souviendrons. Et nous quittant, nous nous retrouverons. Nous deux, nous tenant par la main, nous nous croyons partout chez nous, sous l'arbre doux, sous le ciel noir, sous tous les toits au coin du feu, dans la rue vide, en plein soleil, dans les yeux vagues de la foule, auprès des sages et des fous, parmi les enfants et les grands. L'amour n'a rien de mystérieux, nous sommes l'évidence même, les amoureux se croient chez nous.
Tout le programme sur cave-poésie.com.
What's that? You're attaching something new.
Love Me Tender
2016.
24 heures de lecture de lettres d'amour accompagnées en musique.
En direct de la cave poésie, rue du Thor.
Love Me Tender.
Sur radio éphémère, booster, radio campus et radio fil de l'eau.
Love Me Tender 2016.
Micro ouvert.
Micro ouvert.
Et du coup, trois poèmes d'un poète contemporain qui s'appelle Damien Dutré. Donc ce sera Avec une inconnue, Cannibale, ainsi que 300 clichés de toi. Nous ne sommes pas pareils, vous et moi. On est différents, ça se voit. Moi je suis plutôt, et vous plutôt, et puis vous avez moins de, et alors que moi, mais c'est normal. Et c'est bien. Je ne m'aime pas plus que ça, alors si en plus je devais me farcir moi, dans le bus, dans la rue, non, non. Nous sommes différents, et c'est très bien. Je regarde vos vêtements, vos gestes, la manière de peigner vos cheveux, c'est fascinant. Je n'aurais jamais pensé à me coiffer ainsi. Quelle bonne idée. D'habitude, je ne regarde jamais les gens, je préfère les laisser tranquilles. On ne sait jamais sur qui on tombe. Mais là, un je ne sais quoi chez vous m'attire, une lumière, un éclat de quelque chose. Vous baissez les yeux. Vous aussi, vous aimez être seul, comme moi. On se ressemble un peu finalement. Nous pourrions être frères et sœurs ou cousins, ressemblant, proches, mais pas trop. Nous marcherions côte à côte dans la ville, avec l'assurance de nos racines communes, mais aussi la certitude de nos différences. Nous irions manger une glace, parce que ce seraient les beaux jours d'un début de printemps et la ville serait joyeuse. Je choisirais un parfum pistache, comme toujours, et vous, et toi, du citron ou de la framboise. Enfant, nous aurions été un peu amoureux, comme deux enfants heureux et insouciants. Nous aurions eu nos jeux, nos premiers baisers, des veillées toute la nuit et des fous rires étouffés à grand renfort d'édredons qui sentent la vieille maison. Et des disputes aussi, c'est sûr. Et des pleurs, et des petites blessures du cœur comme un genou qui saigne, qu'un peu de mercurochrome suffit à soigner, rouge sur rouge. Et aujourd'hui, vous baissez un peu les yeux. Et moi aussi. C'est normal. Nous nous connaissons si peu. Je vous tourne autour depuis un moment, comme un chien, ou comme un autre animal si vous n'aimez pas les chiens. Je vous renifle, je vous sens. Votre odeur est infernale. Je ne saurais la décrire, mais j'en suis captif. Un fil invisible qui m'en serre, plus qu'un fil, un écheveau, je m'y emmêle. Comme la proie d'une araignée, plus je me débats, plus je m'enroule et m'enlise, c'est bon, c'est piquant, salé et doux. Trace de parfum dont les fleurs résonnent à mes narines et vibrent et m'agitent. N'ayez pas peur, mais cela me donne un peu envie de lécher votre peau. Comme ça, pour la goûter, pour vérifier l'adéquation de l'odeur et du goût, ça sent si bon, c'est forcément bon, non ? délicieux, à déguster, croquer, savourer, dévorer, engloutir, déglutir, y revenir. Je me souviens que je t'ai regardé longtemps dormir. J'avais un peu froid hors du lit, mais je n'ai pas bougé. Je suis restée là, à observer le rythme lent de tes respirations, les minuscules frémissements de tes narines, les microspasmes de tes cils et de tes paupières, un froncement de ton front, un pincement de la lèvre. J'étais émerveillée par l'infinie richesse de tes traits, par la douceur du grain de ta peau. J'ai détaillé chacune des courbes de ton visage, les ailes de ton nez, les courbes et spirales de tes oreilles, la plantaison de tes sourcils, la nudité de ton cou, les fines pliures de tes paupières, les encres mêlées de ta peau noire, éclaircissement, assombrissement. J'ai détaillé ton visage comme un mot qu'on se répète jusqu'à ne plus le reconnaître. Un vide s'est ouvert. Plus rien de ce que je connaissais n'existait. Tu n'as jamais existé. Alors, étourdi par la torpeur, j'ai pris mon appareil, j'ai appuyé plus de 300 fois sur le déclencheur, 300 clichés de toi. Je n'en ai jeté aucun, et je continue de trouver ce chiffre ridiculement petit. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai fait aussi peu de photos de toi ce jour-là, alors que tu étais tout à moi.
C'était la compagnie Les Soupirachés qui nous propose un petit rendez-vous de déclaration d'amour. On a pu les découvrir devant la CAFPO cet été avec leur spectacle Je t'aime. Et on retrouvera Cécile au fil de la soirée. Love Me Tender à la CAFPOésie, toujours en direct et en public jusqu'à 9h du matin demain. N'hésitez pas à venir. Ceux qui sont dans la salle, qui sont debout, ben, prenez les chaises qui sont disponibles, n'hésitez pas à vous installer, prenez le temps, prenez la place. Et si vous nous écoutez derrière le poste, les ingénieurs de FMR Radio Campus et Radio Occitanie sont toujours en haut de l'Everest pour essayer de remettre en place l'émetteur radio. Donc vous pouvez toujours nous écouter sur l'onde miroir, l'ondemiroir.fr ou alors sur le site de la CAFPO, cave-poésie.com. On enchaîne avec, après ces quelques lettres d'amour, on va enchaîner avec Rilke, des lettres à un jeune poète qui finalement, un poète qui nous donne sa méthode sur l'amour, avec Camille Artichaut à la clarinette et Gilles Fossy à la lecture.
Brême, le 16 juillet 1903. Très cher monsieur Capousse, j'ai laissé longtemps sans réponse une lettre de vous. Non, certes, que je l'eusse oubliée, elle est de celles qu'on relit toujours quand on les retrouve. Je vous y ai vu de tout près. Je parle de votre lettre du 2 mai. Vous vous en souvenez certainement. La relisant aujourd'hui dans le grand calme de ces lointains, votre beau souci de la vie m'émeut encore plus qu'à Paris, où tout résonne autrement et se perd dans le bruit assourdissant qui fait vibrer toute chose. Ici, où un pays puissant m'entoure, sur lequel traînent les vents des mers, je sens que sur ces questions et ces sentiments qui ont dans leur tréfonds une vie propre, nul homme ne saurait vous répondre. Les meilleurs se trompent d'ailleurs dans leurs mots quand ils leur demandent d'exprimer le subtil, parfois l'inexprimable. Je crois cependant que vous ne resteriez pas sans réponse si vous vous teniez à des choses comme celles que je regarde actuellement. Si vous vous accrochez à la nature, à ce qu'il y a de simple en elle, de petit, à quoi presque personne ne prend garde, qui tout à coup devient l'infiniment grand, l'incommensurable, si vous étendez votre amour à tout ce qui est, si très humblement vous cherchez à gagner en serviteur la confiance de ce qui semble misérable, alors tout vous deviendra plus facile, vous semblera plus harmonieux et, pour ainsi dire, plus conciliant. Votre entendement restera peut-être en arrière, étonné, mais votre conscience la plus profonde s'éveillera et saura. Vous êtes si jeune, si neuf devant les choses, que je voudrais vous prier, autant que je sais le faire, d'être patient en face de tout ce qui n'est pas résolu dans votre cœur. Efforcez-vous d'aimer vos questions elles-mêmes, chacune comme une pièce qui vous serait fermée, comme un livre écrit dans une langue étrangère. Ne cherchez pas pour le moment des réponses qui ne peuvent vous être apportées, parce que vous ne sauriez pas les mettre en pratique, les vivre. Et il s'agit précisément de tout vivre. Ne vivez pour l'instant que vos questions. Peut-être simplement en les vivant, finirez-vous par entrer insensiblement un jour dans les réponses. Il se peut que vous portiez en vous le don de former, le don de créer, mode de vie particulièrement heureux et pur. Poursuivez en ce sens, mais surtout, confiez-vous à ce qui vient. Quand ce qui vient sort d'un appel de votre être, d'une indigence quelconque, prenez-le à votre compte, ne le haïssez pas. Les voies de la chair sont difficiles, certes, mais c'est du difficile que nous devons porter. Presque tout ce qui est grave est difficile, et tout est grave. Si seulement vous parvenez à le reconnaître, si vous arrivez par vous-même, par vos dons à vous, par votre nature, par votre expérience à vous depuis votre enfance, par votre puissance propre, à créer un rapport entre vous et la chair qui soit bien à vous et dégagé de toute convention, de tout mode, alors vous ne devez plus craindre de vous perdre et d'être indigne de votre bien le plus précieux. La volupté de la chair est une chose de la vie des sens au même titre que le regard pur, que la pure saveur d'un beau fruit sur notre langue. Elle est une expérience sans limite qui nous est donnée, une connaissance de tout l'univers, la connaissance même dans sa plénitude et sa splendeur. Le mal n'est pas dans cette expérience, mais en ceci que le plus grand nombre en mésuse proprement la galvaude. Elle n'est pour eux qu'un excitant, une distraction dans les moments fatigués de leur vie, et non une concentration de leur être vers les sommets. Les hommes ont de la nourriture aussi fait autre chose. Indigence d'un côté, pléthore de l'autre, ont troublé la clarté de ce besoin. Ainsi ont été troublés tous les besoins simples et profonds par lesquels la vie se renouvelle. Mais chacun, pour soi-même, peut les clarifier et les vivre clairement. Sinon tous, du moins, l'homme de solitude. Qu'elle soit de la chair ou de l'esprit, la fécondité est une, car l'œuvre de l'esprit procède de l'œuvre de chair et partage sa nature. Elle n'est que la reproduction, en quelque sorte plus mystérieuse, plus pleine d'extase, plus éternelle de l'œuvre charnelle. Le sentiment que l'on est créateur, le sentiment que l'on peut engendrer, donner forme, n'est rien sans cette confirmation perpétuelle et universelle du monde, sans l'approbation mille fois répétée des choses et des animaux. La jouissance d'un tel pouvoir n'est indiciblement belle et pleine que parce qu'elle est riche de l'héritage d'engendrement et d'enfantement de millions d'êtres. En une seule pensée créatrice, revivent mille nuits d'amour oublié qui en font la grandeur et le sublime. Ceux qui se joignent au cours des nuits, qui s'enlacent dans une volupté berceuse, accomplissent une œuvre grave. Ils amassent douceur, gravités et puissance pour le chant de ce poète qui se lèvera et dira d'inexprimable bonheur. Tous, ils appellent l'avenir. Et même quand ils font fausse route, quand ils sont aveugles dans leurs étreintes, l'avenir vient. Un homme de plus se lève et du fond du hasard, semblant seul ici obéi, s'éveille la loi qui veut que tout germe fort et puissant perce son chemin vers l'œuf qui s'avance ouvert. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Dans le profond, tout est loi. Et pour ceux qui vivent mal ce mystère qui se fourvoie, et c'est le plus grand nombre, le mystère n'est perdu que pour eux-mêmes. Ils ne le transmettent pas moins aux autres comme une lettre scellée sans en rien connaître. Que l'infinie variété des cas, la multiplicité des mots qui les désignent, ne vous fasse pas douter là. Tout est peut-être régi par une vaste maternité, une commune passion. La beauté de la jeune fille, de cet être qui, comme vous le dites si joliment, n'a encore rien donné, est faite à la fois du pressentiment, du désir et de l'effroi de la maternité. La beauté de la femme, quand elle est mère, est faite de la maternité qu'elle sert, et quand elle est parvenue à la vieillesse, de ce grand souvenir qui vit en elle. L'homme, me semble-t-il, est aussi maternité, au physique et au moral. Engendrer est pour lui une manière d'enfanter. Et c'est réellement enfanter que de créer de sa plus intime plénitude. Les sexes sont peut-être plus parents qu'on ne le croit. Et le grand renouvellement du monde tiendra sans doute en ceci. L'homme et la femme, libérés de toutes leurs erreurs, de toutes leurs difficultés, ne se rechercheront plus comme des contraires, mais comme des frères et sœurs, comme des proches. Ils uniront leurs humanités pour supporter ensemble, gravement, patiemment, le poids de la chair difficile qui leur a été donnée. Mais tout ce qui ne sera qu'un jour lointain impossible au nombre, l'homme de solitude peut dès maintenant en jeter la base, la bâtir de ses mains qui se trompent moins. Aussi, cher monsieur Capousse, aimez votre solitude, supportez-en la peine et que la plainte qui vous en vient soit belle. Vous dites que vos proches vous sont lointains, c'est qu'il se fait un espace autour de vous. Si tout ce qui est proche vous semble loin, c'est que cet espace touche les étoiles, qu'il est déjà très étendu. Réjouissez-vous de votre marche en avant, personne ne peut vous y suivre. Soyez bon envers ceux qui restent en arrière, sûr de vous et tranquille en face d'eux. Ne les tourmentez pas avec vos doutes, ne les effrayez pas par votre foi, par votre enthousiasme, ils ne pourraient comprendre. Cherchez à communier avec eux dans le simple et dans le fidèle. Cette communion ne doit pas nécessairement subir les mêmes transformations que vous. Aimez en eux la vie sous une forme étrangère. Ayez de l'indulgence pour ceux à qui l'âge fait redouter cette solitude à laquelle vous vous abandonnez. Évitez de nourrir le drame toujours pendant entre parents et enfants. Il use tant la force des enfants. Et il épuise cet amour des vieux qui n'a pas besoin de comprendre pour agir et pour réchauffer. Ne leur demandez pas conseil. Renoncez à être compris d'eux. Croyez seulement en un amour qui vous est gardé comme un bien d'héritage. Soyez certains qu'il y a dans cet amour une force, une bénédiction qui peuvent vous accompagner aussi loin que vous alliez. Mes vœux sont prêts à faire de même et ma confiance. Votre Rainer Maria Rilke. Rome, le 14 mai 1904. Mon cher monsieur Capousse, vous voyez, j'ai copié votre sonnet parce que je l'ai trouvé beau et simple et né dans une forme qui lui permet de se mouvoir avec une calme décence. De tous les vers que j'ai lus de vous, ce sont les meilleurs. Je vous offre cette copie, sachant combien il est important et plein d'enseignements de retrouver son propre travail dans une écriture étrangère. Lisez ces vers comme s'ils étaient d'un autre et vous sentirez tout au fond de vous-même combien ils sont à vous. Ne vous laissez pas troubler dans votre solitude parce que vous sentez en vous des velléités d'en sortir. Ces tentations doivent même vous aider si vous les utilisez dans le calme et la réflexion comme un instrument pour étendre votre solitude à un pays plus riche encore et plus vaste. Les hommes ont pour toutes les choses des solutions faciles, conventionnelles, les plus faciles des solutions faciles. Il est pourtant clair que nous devons nous tenir au difficile. Tout ce qui vit s'y tient. Chaque être se développe et se défend selon son mode et tire de lui-même cette forme unique qui est son propre, à tout prix et contre tout obstacle. Nous savons peu de choses, mais qu'il faille nous tenir au difficile, c'est là une certitude qui ne doit pas nous quitter. Il est bon d'être seul parce que la solitude est difficile. Qu'une chose soit difficile doit nous être une raison de plus de nous y tenir. Il est bon aussi d'aimer, car l'amour est difficile. L'amour d'un être humain pour un autre, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile pour chacun de nous. C'est le plus haut témoignage de nous-mêmes, l'œuvre suprême dont toutes les autres ne sont que les préparations. C'est pour cela que les êtres jeunes, neufs en toutes choses, ne savent pas encore aimer. Ils doivent apprendre. De toutes les forces de leur être, concentrées dans leur cœur qui bat anxieux et solitaire, ils apprennent à aimer. Tout apprentissage est un temps de clôture. Ainsi, pour celui qui aime, l'amour n'est longtemps et jusqu'au large de la vie que solitude, solitude toujours plus intense et plus profonde. L'amour, ce n'est pas dès l'abord se donner, s'unir à un autre. que serait l'union de deux êtres encore imprécis, inachevés, dépendants. L'amour, c'est l'occasion unique de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même un monde pour l'amour de l'être aimé. C'est une haute exigence, une ambition sans limite qui fait de celui qui aime un élu qu'appelle le large. Dans l'amour, quand il se présente, ce n'est que l'obligation de travailler à eux-mêmes que les êtres jeunes devraient voir. Se perdre dans un autre, se donner à un autre, toutes les façons de s'unir ne sont pas encore pour eux. Il leur faut d'abord thésauriser longtemps, accumuler beaucoup. Le don de soi-même est un achèvement. L'homme en est peut-être encore incapable. Là est l'erreur si fréquente et si grave des jeunes. Ils se précipitent l'un vers l'autre quand l'amour fond sur eux, car il est dans leur nature de ne pas savoir attendre. Ils se déversent alors que leur âme n'est qu'ébauche, trouble et désordre. Mais quoi ? Que peut faire la vie de cet enchevêtrement de matériaux gâchés qu'ils appellent leur union et qu'ils voudraient même appeler leur bonheur ? Et quel lendemain ? Chacun se perd lui-même pour l'amour de l'autre, et perd l'autre aussi et tous ceux qui auraient pu venir encore. Et chacun perd le sens du large et les moyens de le gagner. Chacun échange les va-et-vient des choses du silence, plein de promesses, contre un désarroi stérile d'où ne peuvent sortir que dégoût, pauvreté, désillusion. Il ne lui reste plus qu'à trouver un refuge dans une de ces multiples conventions qui s'élèvent partout comme des abris le long d'un chemin périlleux. Nulle région humaine n'est aussi riche de conventions que celle-là. Canaux, bouées, ceintures de sauvetage, la société offre là tous les moyens d'échapper. Enclin à ne voir dans l'amour qu'un plaisir, les hommes l'ont rendu d'accès facile, bon marché, sans risque, comme un plaisir de foire. Combien d'êtres jeunes ne savent pas aimer ? Combien se bornent à se livrer comme on le fait couramment et qui ploient sous leur erreur ? Ils cherchent par leurs propres moyens à rendre vivable et fécond l'état dans lequel ils sont tombés. Leur nature leur dit bien que les choses de l'amour, moins encore que d'autres, importantes aussi, ne peuvent être résolues suivant tel ou tel principe, valant dans tous les cas. Ils sentent bien que c'est là une question qui se pose d'être à être et qu'il y faut pour chaque cas une réponse unique, étroitement personnelle. Mais comment ? S'ils se sont déjà confondus dans la précipitation de leur étreinte, s'ils ont perdu leur propre, trouveraient-ils en eux-mêmes un chemin pour échapper à cet abîme ou à sombrer leur solitude ? Ils agissent à l'aveugle l'un et l'autre. Ils usent leur meilleur vouloir à se passer de conventions comme le mariage pour tomber dans des conventions moins voyantes, certes, mais tout autant mortelles. C'est qu'il n'est à leur portée que des conventions. Tout ce qui vient de ces unions troubles qui doivent leur confusion à la hâte ne peut être que convention. Mais si, à force de constance, nous acceptions de subir l'amour comme un dur apprentissage au lieu de nous perdre aux jeux faciles et frivoles qui permettent aux hommes de se dérober à la gravité de l'existence, alors peut-être un insensible progrès, un certain allègement pourra venir à ceux qui nous suivront, et longtemps encore après nous, et ce serait beaucoup. À peine en arrivons-nous aujourd'hui à considérer sans préjugés les rapports d'un être avec un autre. Nos tentatives pour vivre de tels rapports manquent d'exemples qui les guideraient. Et pourtant, le passé enferme des ébauches de vie qui ne demandent qu'à aider nos pas hésitants. La jeune fille et la femme, dans leur développement propre, n'imiteront qu'un temps les manies et les modes masculines, n'exerceront qu'un temps des métiers d'homme. Une fois finies ces périodes incertaines de transition, on verra que les femmes n'ont donné dans ces mascarades, souvent ridicules, que pour extirper de leur nature les influences déformantes de l'autre sexe. La femme, qu'habite une vie plus spontanée, plus féconde, plus confiante, est sans doute plus mûre, plus près de l'humain que l'homme, le mâle prétentieux et impatient qui ignore la valeur de ce qu'il croit aimer, parce qu'il ne tient pas aux profondeurs de la vie comme la femme. Cette humanité qu'a mûri la femme dans la douleur et dans l'humiliation verra le jour quand la femme aura fait tomber les chaînes de sa condition sociale. Et les hommes qui ne sentent pas venir ce jour seront surpris et vaincus. Un jour, des signes certains l'attestent déjà dans les pays nordiques, la jeune fille sera, la femme sera. Et ces mots « jeune fille », « femme » ne signifient plus seulement le contraire du mal, mais quelque chose de propre, valant en soi-même, non point un simple complément, mais une forme complète de la vie. La femme dans sa véritable humanité. Un tel progrès transformera la vie amoureuse aujourd'hui si pleine d'erreurs, et cela malgré l'homme qui d'abord sera devancé. L'amour ne sera plus le commerce d'un homme et d'une femme, mais celui d'une humanité avec une autre. Plus près de l'humain, il sera infiniment délicat et plein d'égards, bon et clair dans toutes les choses qu'il noue ou dénoue. Il sera cet amour que nous préparons en luttant durement, de solitude se protégeant, se complétant, se limitant et s'inclinant l'une devant l'autre. Ceci encore. Ne croyez pas que l'amour que vous avez connu adolescent soit perdu. N'a-t-il pas fait germer en vous des aspirations riches et fortes? Des projets dont vous vivez encore aujourd'hui. Je crois bien que cet amour ne survit si fort et si puissant dans votre souvenir que parce qu'il a été pour vous la première occasion d'être seul au plus profond de vous-même, le premier effort intérieur que vous ayez tenté dans votre vie. Tous mes voeux, cher monsieur Capus, votre Rainer Maria Rilke.
En direct de la cave poésie.
Live. Rue du Thor.
Live me.
Tender.
Live me.
Tender.
Live me.
Tender.
Live me.
Tender.
Live me.
Tender.